politique.
Bonjour, après la France d'avant 68 racontée par Jean-Pierre Le Goff, puis une évocation de mai 68 avec Emmanuel Loyer, nous allons nous intéresser cette semaine à l'esprit de révolte dans ce nouveau numéro du magazine Idée, dernier volet de notre triptyque sur les événements, comme on dit, de ce mois de mai entré dans l'histoire il y a 50 ans. Esprit de révolte, pour reprendre le titre du livre de l'un de nos deux invités, Vincent Delecroix, qui l'affirme, on mesure mal d'une manière générale l'importance vitale du nom dans nos comportements. Esprit de révolte que nous allons observer à l'appui d'un document unique. Le journal de la commune étudiant, texte et document novembre 1967, juin 1968, une somme rééditée au Seuil, dont l'un des auteurs, Alain Schnapp, est aussi avec nous. Voici donc un nouveau numéro d'Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine que vous pouvez retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Alors avant de commencer notre conversation, replongeons-nous dans l'ambiance de ce mois de mai 1968, marqué entre autres par la protestation contre la guerre du Vietnam.
Vietnam 67, Vietnam 67, Vietnam 67.
Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture.
Journal des combattants.
Tu étais quand même d'accord avec moi, Francis, qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'université française. Tu es bien d'accord que c'est même le grand problème, l'éducation.
Oui, oui, c'est un des très grands problèmes.
Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe. Que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
J'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État et d'abord à son chef un mandat.
Monsieur, attention! Nous sommes des gens pacifiques. Il s'agit de savoir avant tout ce que vous entendez par révolution.
Encore une fois, je dis que les étudiants n'entendent pas par révolution la révolution, le balayement de la société capitaliste. Ils entendent par révolution simplement s'occuper dans l'université de leurs propres affaires, ne plus dépendre de programmes démentiels, diminuer le terrorisme de l'examen, atténuer la force du rapport maître-esclave dans maître-élève. Voilà.
Écoutez, moi j'ai l'impression, monsieur, qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de gens en France qui veulent une insurrection.
Non. Bien, c'est ce que j'ai dit.
Une insurrection, mais je crois qu'il y en a énormément qui veulent une révolution. Sans savoir exactement quelle forme elle prendra.
Beaucoup de gens,
même s'ils ne veulent pas une insurrection armée, parce qu'il est quand même extrêmement difficile de foutre tout en l'air d'un seul coup quand on ne sait pas par quoi le remplacer. Il y a beaucoup de gens qui veulent une révolution, et si cette révolution n'est pas une insurrection, elle prendra peut-être, je n'en sais rien, la forme d'une espèce de révolution permanente.
Monsieur, surtout pas de guerre civile.
Donc vous pensez que
les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille.
Paris s'éveille.
Alors l'ambiance sonore qui évoque mai 68 va être très présente dans ce numéro. On l'a voulu ainsi grâce au travail de Vanessa Rovensky, la réalisation de Vanessa Rovensky. Les paroles que l'on entend font écho en effet au texte dont nous allons parler. Bonjour Alain Schnapp.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes professeur émérite d'archéologie grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dès 1969, avec le grand historien spécialiste de l'Antiquité, aujourd'hui disparu, Pierre Vidal-Naquet, vous avez rassemblé des documents et publié quelques-uns d'entre eux. Il y en a 362 exactement. Ce sont des tracts, des articles, des notes qui constituent de véritables archives de cette époque. Ça va de novembre 67 à juin 1968. Et vous étiez d'ailleurs tous les deux acteurs du mouvement, on va y revenir dans un instant. Bonjour Vincent Delecroix.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directeur d'études en philosophie de la religion à l'école pratique des hautes études, spécialiste de Kierkegaard, écrivain, auteur notamment du Tombeau d'Achille, qui a d'ailleurs obtenu le grand prix de l'Académie française, auteur donc de Nom de l'esprit de révolte, votre dernier livre publié aux éditions Autrement, qui va être aussi au cœur de cette émission. J'ai lu votre regard d'une autre génération sur mai 68. Je le disais, Alain Schnapp, vous étiez acteur.
Oui, si on peut dire acteur, dès le 3, chacun. Dès le 3 mai, j'ai eu la bonne fortune d'être arrêté avec le groupe des étudiants qui occupait la Sorbonne, dans lesquels il y avait Cohn-Bendit et bien d'autres.
Qui a mis le feu aux poudres, après Nanterre.
Oui, c'est cette arrestation qui, par un enchaînement bizarre, a mis le feu aux poudres, parce que nous ne nous attendions pas à cela. Mais je voudrais souligner une chose, parce qu'on dit toujours que la question féminine a été absente de 68, c'est que, d'abord, l'arrivée de la police dans la cour de la Sorbonne a été extrêmement respectueuse, il n'y a pas eu de... Enfin, nous ne cherchions pas la bagarre, et il n'y a pas eu de bagarre, mais surtout, les enseignants qui étaient là, et les filles, ont pu partir. Et donc, en partant, ils ont commencé à hurler, libérer nos camarades. Et c'est ça qui a déclenché cet engrenage qui est encore très vivant dans mon esprit, parce que je me rappelle que quand nous montons dans le car qui devait nous emmener au commissariat de l'Opéra, les premiers cars sont déjà partis et je vois le policier qui devait monter avec nous dans le bus aller voir le chauffeur et lui dire « Les choses sont en train de mal tourner, si on est bloqué, on se tire.
» Ambiance.
L'ambiance était déjà très chaude et personne ne s'attendait à cela. Puisqu'en gros, il n'y a eu aucune violence. Et quand on pense à la suite et aux violences, surtout à Flins et ailleurs, au commissariat de l'Opéra, on a été reçus avec une politesse incroyable et on a été relâchés très vite, sauf quelques-uns d'entre nous, donc Xavier Langlade, qui est resté avec Cohn-Bendit parce que on s'attendait à ce qu'il cherche des poux dans la tonsure.
Cohn-Bendit qu'on a entendu à l'instant dans cet extrait sonore, tout comme on a entendu un extrait du film La Chinoise de Jean-Luc Godard, et une discussion sur le boulevard Saint-Michel, mais là c'était plutôt vers la fin du mois de mai. Une révolte, Vincent Delecroix, ça peut éclater vraiment au moment où on s'y attend pas.
Oui, enfin, c'est surtout qu'on a souvent des visions rétrospectives, évidemment. Pour mai 68, là, c'est très clair, parce que, en même temps, vous venez de dire que personne ne pouvait s'imaginer ça, et puis le savoir historique donne de la nécessité à ça rétrospectivement. Alors, évidemment, il y avait la convergence des luttes, comme le mot est à la mode aujourd'hui, mais il y avait les grèves dans les usines, le mouvement étudiant, tout ça se coalise, mais... Il y a aussi une histoire longue derrière. Il y a la fin des Trente Glorieuses, il y a les changements en profondeur de la société française qui expliquent aussi qu'il y a un mélange entre l'irruption parfaitement contingente et des tendances très 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 lourdes.
Je vous citais dès le début de l'émission, vous dites qu'on mesure mal, et ça c'est l'illustration de mai 68 est parfaite, on mesure mal l'importance du non.
C'est le principe de la rupture. Quand il s'agit d'accepter, de dire oui, etc., on sait exactement ce que demain va apporter. À partir du moment où il y a un effet de rupture, le non par définition, c'est un peu ça que j'ai cherché au départ, le non par définition, c'est une cassure dans la continuité historique. C'est de l'événement. Il y a un oui, c'est rarement un événement, mais le non, ça introduit une rupture. Et donc, par définition, on introduit de la contingence. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a un ordre qui est ébranlé.
Donc à partir du 3 mai, cet ordre a été ébranlé d'évidence, Alain Schnapp. Ensuite, il y a eu une succession de manifestations le 6 mai. Et puis l'apparition des premières barricades dans la nuit du 10 au 11. Ça, cette nuit est restée inscrite dans l'histoire. Vous étiez sur les barricades ?
J'étais au début de l'événement du 10, mais je ne suis pas resté jusqu'à la fin parce que nous avions des tours de rôle, le groupe des étudiants d'histoire, et j'avais été de permanence les deux nuits précédentes. Donc j'ai raté un peu la seconde partie, qui était la plus violente de l'événement. Mais j'ai vu les barricades plus ou moins se constituer. Et au départ, on avait l'impression que ça ne serait pas violent, parce que entre nous, à quelques enseignants, on était allés au contact des gardes mobiles et des CRS qui disaient « bon, on reste calme ». Donc on chantait des hymnes révolutionnaires, l'internationale, la varsovienne, etc. Et puis à partir du moment où l'ordre a été donné que la police avance, alors la tension a été manifeste et il y a eu des échanges assez violents. Et donc, par exemple, Antoine Cuglioli, qui était professeur d'anglais, hein, professeur charismatique de l'ancienne Sorbonne, a été le témoin. Il a accueilli dans son appartement, qui était au quartier latin, plusieurs blessés.
Alors donc il y a eu une succession ensuite de manifestations, le déclenchement d'une grève générale le 13 mai, une grève à l'ORTF le 17 et une extension de la grève pendant tout le mois de mai jusqu'au discours du général de Gaulle le 30 mai. On l'a évoqué un petit peu la semaine dernière avec Emmanuel Loyer. Le mouvement a encore continué jusqu'à la mi-juin en gros. Ce sont quelques dates importantes de ces événements. Mais je voudrais qu'on s'intéresse à ces événements à partir de ce journal de la Commune une étudiante, car votre démarche, Alain Schnapp, avec Pierre Vidal-Naquet est très singulière.
C'est lié, le moteur de ça a été Vidal-Naquet. Vidal-Naquet, mon ami François Hartog lui a dédié un livre qui s'appelle Vidal-Naquet, historien en personne.
Alors, grand historien, militant.
Voilà, la vie de Vidal-Naquet, elle est tout entière structurée par la mémoire de la déportation, l'arrestation de ses parents à Marseille et leur extermination, la lutte anticoloniale. Et il était un des animateurs du comité Vietnam National avec son meilleur ami, le grand mathématicien et homme de gauche Laurent Schwartz. Et puis, dans le champ intellectuel, un historien de l'Antiquité, ayant une vocation très marquée pour les sources historiques, le monde grec. Et il a développé constamment cet aller-retour entre l'histoire très contemporaine. Il y aura eu plusieurs causes dans sa vie. L'une des plus importantes, ça a été évidemment la guerre d'Algérie, à cause du livre qu'il a publié très tôt sur l'assassinat de Maurice Audin, à la demande de Madame Audin. Donc ça s'est passé par Schwartz, parce que Maurice Audin était un assistant de mathématiques à l'université d'Alger, arrêté par les parachutistes et liquidé. Oui. Et pour justifier la mort d'Audin, les parachutistes ont voulu faire croire à une évasion. Et Vidal-Naquet a écrit ce livre, L'affaire Audin, qui est un peu, à la guerre coloniale, ce que les grands textes sur l'affaire Dreyfus étaient 80 ans, 70 ans avant. Et donc, Vidal-Naquet se trouve averti par certains de ses étudiants, dont moi, et avec d'autres historiens de l'époque, Jacques Julliard, pour prendre un exemple, Madeleine Robériot, bien sûr, bien d'autres encore. Nous nous retrouvons, dès que la Sorbonne est ouverte, à la bibliothèque Lavis, du nom du grand historien qui était la bibliothèque des historiens.
Et alors la réouverture de la Sorbonne, c'est le 13 mai, c'est ça ? C'est Georges Pompidou qui décide de rouvrir la Sorbonne.
Il rouvre la Sorbonne avec cette idée, qui n'était pas idiote du tout, qu'il fallait donner un certain espace à la contestation.
Pour la canaliser, en quelque sorte.
Mais on sentait déjà dans l'appareil d'État qu'il y avait des gens qui auraient bien aimé cogner dans le tas.
Alors, il faut parler de ce contexte politique. Alors d'abord, de l'importance des syndicats d'étudiants et de l'UNEF, singulièrement, dont vous faisiez partie, je crois.
Voilà, c'est ça. Et à l'époque, l'UNEF, même si elle était un peu déjà en rétraction, elle était encore toute nimbée de cette courageuse opposition à la guerre d'Algérie. C'est à travers les dirigeants de l'UNEF qu'une partie des Algériens ont pu être sauvés. C'est à travers leur fonction de porte-parole que l'opinion a été mise au courant. Donc, pour les gens de ma génération, arrivant à la Sorbonne, moi je passe le bac en 64, on arrive à la Sorbonne dans ces années-là, et on regarde ceux qui nous ont précédés, et on trouve qu'ils ont été à la fois des gens engagés dans l'action intellectuelle et en même temps conscients de la pression politique et des, comment dirais-je, des renoncements de la République. La façon, l'impossibilité de la classe politique depuis 1954 à régler la question algérienne dans la liberté de...
Alors,
des Algériens.
Il y a les syndicats et il y a aussi le contexte politique de l'époque, marqué en l'occurrence par le Vietnam et un contexte où le marxisme était très présent.
Le marxisme désignait dans la critique, comme dans une acceptation parfois béate, l'horizon intellectuel des sciences sociales et humaines. Et d'autre part, la critique de la politique des partis dits communistes était très violente dans nos générations. Elle remontait à la répression en Hongrie, à la répression en Tchécoslovaquie, et surtout au fait que la direction du PC ou des PC refusait de soutenir les opposants à la guerre d'Algérie. Donc il y avait eu la dissolution du secteur lettres de l'Union des étudiants communistes, avec Pierre Goldman et quelques autres, Krivine en était aussi, et donc autour du Parti communiste, un foisonnement de ce qu'on peut appeler des sectes, ou des mouvements, qui cherchaient à en quelque sorte refaire un bréviaire marxiste à l'ordre du jour. Et ça allait des anarcho-syndicalistes, ça a été le mouvement du 22 mars, ça passait par la JCR et par les lambertistes, et ça finissait par les marxistes-léninistes, et à l'École normale, sous la houlette d'Althusser, un groupe très brillant de philosophes. Il y avait Rancière, il y en avait quelques autres, il y avait Benny Lévy, personnage absolument charismatique, s'était lancé dans une critique de la lecture marxiste qui tendait à penser que Mao avait raison, ce qui pose quelques problèmes.
Donc c'était Alain Schnapp, un véritable bouillon de culture, et il ne faut pas oublier, surtout pas, les situationnistes.
Absolument. Et alors les situationnistes, eux, développaient une stylistique de la critique, un vocabulaire, et qui passait... Ils avaient pris le pouvoir à l'Association Générale des étudiants de Strasbourg, un an auparavant, et ils avaient lancé ce pamphlet, qui reste très poétique encore aujourd'hui, de la misère en milieu étudiant. Et donc, les situationnistes ne représentaient pas grand-chose comme organisation, mais comme puissance d'initiation, comme stylisation des attitudes politiques, comme critique des vulgates politico-théoriques. Ils étaient vraiment les grands fournisseurs d'idées.
Alors, je renvoie nos auditeurs aux archives de l'émission. Nous avions consacré, il y a quelques années de cela, une émission à Guy Debord, à l'occasion d'une exposition qui se tenait à la Bibliothèque nationale. Parmi les slogans que j'aime, et on en parlait avec Emmanuel Loyer la semaine dernière, c'est « Appuyons-nous sur nos idées, elles finiront bien par céder ».
Oui, c'est cette idée de la critique autocritique. Mais ce qui me plaît dans cette idée, c'est qu'elle reprend, je dirais, une poésie très ancienne, qui est celle de l'Égypte ancienne, dans laquelle le poète s'adresse aux sculpteurs, aux peintres et aux architectes. Et il leur a dit « Mais arrêtez de construire, arrêtez de peindre, écoutez ma voix, car quand elle est bien entendue et qu'une génération la transmet d'un groupe à l'autre, elle est plus solide que la pyramide la plus élevée. » Et donc, je pense qu'il y a chez les situationnistes une redécouverte inconsciente de cette catégorie de la parole constructive.
Vincent Delcroix, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur le rêve comme façon de se révolter. D'ailleurs, révolution, rêve, ça commence de la même manière. Le rêve était présent aussi en 68.
Oui, c'était soyez réaliste, demandez l'impossible. Comme philosophe, je me suis intéressé justement à l'ambivalence que ça représente, parce que, comme vous le savez, notamment chez les marxistes, j'allais dire orthodoxes, la notion de rêve en politique, c'est pas une très bonne idée. Si vous regardez la fin du manifeste du Parti communiste, les communismes utopiques font les frais, encore une fois, de l'ironie de Marx. Donc l'idée que le rêve soit une force politique est quelque chose d'extrêmement problématique. C'est une force, on sait même pas si c'est une force. C'est-à-dire, c'est aussi l'impuissance petite bourgeoise qui consiste à rêver sa vie au lieu de la vivre. Et ce sont les forces matérielles qui réalisent l'histoire. C'est pas des idées, des fantasmagories et des rêves ou des contes de bonnes femmes. Et donc, il a fallu toute une torsion, c'est ça qui m'intéresse aussi, il a fallu toute une torsion théorique à l'intérieur du marxisme, par exemple, pour, notamment dû à Ernst Bloch, pour réussir à faire pénétrer l'idée que le rêve peut être une puissance révolutionnaire, et que l'utopie est pas simplement un horizon de la fin de l'histoire, parce que là on tombe dans l'hegelianisme, mais c'est pas simplement des fantasmagories, mais que ça peut être vraiment une puissance informatrice de l'histoire. Et j'étais très frappé dans les archives, là, quand on entendait brièvement non à la récupération stalino-chrétienne du surréalisme. Et ça, c'est très, très caractéristique aussi de ce mouvement, parce que il y avait, bon, ça vise aussi Breton et son alignement sur le Parti communiste français. Mais ça vise aussi le fait que le surréalisme a été partie prenante ou a constitué, et notamment la puissance du rêve, la puissance subversive du rêve et de l'inconscient mise en avant par le surréalisme, a été aussi un élément fondateur de ces événements.
Alain Schnapp, il y avait manifestement une part de rêve dans ce mouvement. Il y avait aussi des stratégies politiques, des intérêts bien compris, mais il y avait aussi de la part de beaucoup d'étudiants, peut-être en faisiez-vous partie, des rêveurs, non ?
Oui, les rêveurs, au sens que pour la première fois, on avait l'impression que on sortait des figures imposées de la tradition intellectuelle. On se retrouvait, on avait des enseignants, des chercheurs, des étudiants de toutes origines, et on pouvait débattre. On avait déjà vu ça en Allemagne avec la SDS allemande, l'Organisation des étudiants socialistes allemands. On l'avait vu aussi dans les occupations et les critiques en Italie. Mais brusquement, à partir du 5-6 mai, on sent que quelque chose dans l'air a changé. Et ce quelque chose, il peut être les prémices d'un changement global. Et donc, ce changement ne peut venir que du libre débat, de la discussion. Et donc, à l'intérieur de la discussion, comme on vient de le dire, l'utopie joue un rôle fondamental, que ce soit l'utopie d'une révolution qui se passerait sans violence et qui romprait avec les échecs des régimes staliniens, qui ne pouvaient pas emporter la conviction, évidemment, enfin la majorité, et puis aussi l'idée que la société ne fait pas assez de place à l'expression des désirs des individus. Et ça, c'est le grand héritage du surréalisme. Et d'une certaine façon, les situationnistes se posent en héritier par la forme, par l'écriture, par la stratégie géniale du détournement. Détournement de sens, détournement d'image. Et c'est un des paradoxes de l'histoire de mai 68, qu'en voulant, en quelque sorte, critiquer la parole établie, ils fabriquent des outils qui vont servir à un nouvel endoctrinement, à celui de la société de consommation, car toute notre publicité moderne, elle est, et tous les réseaux, la publicité sur nos réseaux Internet, elle est liée à ce détournement des paroles pseudo-révolutionnaires. Regardez le culte de Che Guevara, mais tant d'autres choses du même genre.
Alors, vous insistez aussi dans votre postface, nouvelle postface à ce livre, journal de la commune étudiante. Vous parlez du désir quasi mythologique des étudiants de retrouver le fil imaginaire d'une tradition révolutionnaire ininterrompue depuis 1789 et la volonté d'innover en utilisant les techniques de la dérision et de l'humour pour s'en prendre aux idoles de la tradition et du productivisme.
C'est cela. Oui, j'ai essayé de résumer dans cette phrase ce qui était pour moi le cœur du soulèvement. C'est-à-dire l'idée, premièrement, qu'on ne devait pas se laisser faire et qu'on avait la chance de ne pas se laisser faire puisque l'État flageolait, l'État ne savait pas, ses corps constitués étaient ébranlés. Et d'autre part, on avait un écran mythologique qui était 89, qui était la commune, qui était les journées de juillet, etc., etc. Donc il y avait une relation, il y avait entre la conscience de l'événement, c'est-à-dire que chacun des actes dont nous décidions pouvait avoir un certain effet sur la ville et au-delà de la ville sur le pays, et d'autre part, on se posait la question, mais dans quel cas sommes-nous ? Sommes-nous en 89, sommes-nous en 92, sommes-nous en 48, sommes-nous... Et venant d'historiens, évidemment, la question était presque psittaciste. Hein. On avait l'impression que l'histoire bégayait et que ce bégaiement pouvait créer des espoirs. Et donc, des espoirs, certains en ont eu d'extrêmes, qui ont parfois mal fini dans le suicide, dans un surengagement politique qui les a brisés. Et d'autres, ils ont préfiguré des manières de s'exprimer, une attitude critique vis-à-vis des idées et des corps constitués qui les sous-tendent, qui me paraît être un des éléments actuels de l'écho de mai 68, de l'effet de souffle.
Alors, mai 68, on va y replonger grâce à quelques archives. Je vous propose maintenant d'écouter Sartre à la Sorbonne. André Barjonnet qui vient de quitter la CGT, des ouvriers en grève. Mais aussi un pianiste de Bobby Lapointe qui joue dans la cour de la Sorbonne. Peut-être l'avez-vous rencontré, Alain Schnapp. Un garçon de café dans un grand amphi de la Sorbonne et un extrait de discussion au sein du comité étudiant-écrivain où on entend Dionis Mascolo.
Il est évident que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas simplement une union des opprimés, mais c'est que les fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie s'unissent aux ouvriers. Et ils s'unissent non pas pour des revendications minima, mais pour un programme révolutionnaire.
Alors comment ça se passe chez vous, la grève?
Bah, le climat pour l'instant est bon, ouais. L'ambiance ça va.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais la grève, très bien. Enfin, il y a l'unité syndicale chez Jean Principal.
Ah, je crois qu'il faut défendre nos salaires qui sont vraiment bons.
Le mouvement ouvrier a pris le pas sur le mouvement étudiant. Les arrêts de travail avec occupation des locaux se multiplient avec une rapidité foudroyante.
De la musique.
Pour Bobby Lapointe.
Vous êtes le pianiste de Bobby Lapointe.
C'est ça, ouais.
Quel effet ça vous fait de jouer du piano comme ça, du jazz sur un grand piano à queue, dans une cour aussi solennelle, celle d'une vieille université comme la Sorbonne?
Moi, je trouve ça assez hétéroclite, c'est pour ça que ça m'amuse un peu d'ailleurs.
Vous avez fait des études, vous?
Oh, j'ai raté mon certificat d'études.
Ça doit être étonnant quand même de jouer comme ça, hein, à la Sorbonne.
Toujours les mêmes, ils sont dirigés par les technocrates, les intellectuels. Ceux qui leur ont le certificat d'études sont toujours en dessous. Si, sûrement, la preuve, vous êtes 80% d'intellectuels ici. Et moi qui n'ai que mon certificat d'études, eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh ben, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai.
Voilà sur quoi nous sommes mis d'accord. Pour faire des affichettes demain sur le thème des élections, ne bradons pas la grève contre un bulletin de vote, c'est la citation de Cohn-Bendit.
Je le fais.
Sur l'intoxication radio, la radio empoisonne, la grève purifie. Sur le gaullisme fascisant, la violence c'est De Gaulle, le pouvoir c'est vous. Pour les travailleurs, soyez réalistes, demandez l'impossible.
Alors nous étions à nouveau dans l'ambiance de mai 68 où l'on chante, où la parole est libérée. Vincent Delcroix, c'est ce qui vous marque, vous, dans ce... Enfin, une des choses qui vous marque dans ce
mouvement. Oui, moi j'y suis particulièrement sensible. Alors peut-être que, bon, c'est, aussi c'est probablement une déformation liée aux archives et au fait que moi j'ai pas vécu ça, mais on a vraiment l'impression qu'il y a... que la parole, les questions de parole, c'est le centre de ces événements-là. C'est-à-dire qui possède la parole, la liberté d'expression, alors là, n'en parlons pas, mais aussi le débat contradictoire, l'échange des arguments, le champ, la confrontation strictement verbale et jusqu'à l'innovation linguistique dont on parlait tout à l'heure chez les situationnistes comme héritier du surréalisme. Tout est lié. Alors bien sûr, il y a les pavés, bien sûr, il y a les grèves, des grèves qui ont parfois des tendances révolutionnaires affirmées, mais il y a surtout, je sais pas, ce qui me frappe, moi, en tout cas, c'est cet élément langagier permanent. Voilà, comme si... et je pense pas du tout que ce soit simplement une révolution en parole, mais c'est que la révolution se fait dans la parole, d'abord. Qui se l'approprie? Et on entend bien régulièrement dans les archives qu'on entend là, par exemple, des conflits de légitimité, où se trouve le pouvoir, par exemple, est-ce qu'il est dans la rue, est-ce qu'il est dans le Parlement, qui parle en réalité et qui détient le pouvoir de la parole? C'est ça la véritable légitimité politique dans ce cas-là.
Et les murs avaient aussi la parole, Alain Schnapp, et cette parole est aussi écrite, imprimée, et quand on lit ces documents que vous avez amassés pendant ce mouvement, on est frappé par la richesse et la diversité de leur contenu.
Oui, à partir du moment où les gens savent qu'ils peuvent s'exprimer et que quelqu'un les entendra, eh bien, ça déclenche ce désir de prise de parole. Donc, la parole, dans ce qu'elle a de plus riche, le chant, dans ce qu'il a de poétique, et les inscriptions murales, brusquement, reviennent à l'ordre du jour. Alors que les inscriptions murales, en gros, on les avait pas connues depuis le soviet de Petrograd, en quelque sorte. Donc, mai 68 est à la fois un formidable mouvement dans lequel le débat s'énonce, même si à l'intérieur il y a des différences, il y a même des contestations et des violences, mais j'ai pas le souvenir, c'est que si on y réfléchit, pendant cette occupation de la Sorbonne ou pendant l'occupation de l'Odéon, de violences exercées les uns contre les autres. Donc il y a l'idée que brusquement, il y a un libre débat.
Et il y a le débat notamment entre les étudiants et les ouvriers. On en a entendu quelques-uns. Là, c'est un des grands thèmes de mai 68. C'est, et les critiques aussi, hein, les étudiants d'un côté, les ouvriers de l'autre. Il y a eu des tentatives de rencontres.
Il y a eu des tentatives de rencontres qui ont été, à Paris en tout cas, bloquées par les appareils, par le Parti communiste et par la CGT.
Mais ça n'a pas été... Impossible pour les étudiants d'aller chez Renault, par exemple.
Voilà. Mais par contre, dans certaines villes de province, et Nantes, ce qu'on a appelé la commune de Nantes, la liaison s'est faite. Donc, l'idée évidente, quand on a ces assemblées générales, on décide d'un certain nombre de choses liées à la gestion courante. Qu'est-ce qu'il faut faire, la lumière dans les amphis, les micros qui marchent, qui doit prendre la parole et combien de temps. Et on réfléchit aussi à des thèmes. Et ces thèmes, un de ces thèmes que nous ressentons violemment, c'est la coupure entre le mouvement étudiant et les ouvriers. Et donc, les ouvriers, spontanément, viennent dans ces amphis pour discuter, pour écouter. Quand on regarde, même si vous regardez les gens arrêtés le 3 mai, ben vous trouverez qu'il y a beaucoup d'ouvriers ou de gens, il n'y a pas que des étudiants, on a les listes, Ludivine Mortigny les a analysées dans son livre, on a les listes.
Ludivine Mortigny qui est une historienne et voilà, qui s'est spécialisée dans mai 68.
Un livre très intéressant parce que c'est un des plus synthétiques sur l'historisation de mai 68 et elle, à ma surprise, elle a trouvé ce document à la préfecture de police qui est le nom et la profession des gens arrêtés le 3 mai. Et ben, si vous allez le regarder, c'est déjà un melting pot. Donc, il y a cette idée que, à l'époque, il y a le nombre de bacheliers est beaucoup plus important que 10 ans auparavant, mais il est encore très inférieur à ce que nous connaîtrons aujourd'hui. Donc, il faut diffuser la relation entre ceux qui ont la chance d'avoir une éducation secondaire et supérieure et ceux que la machine scolaire a un peu brimé et qui sont, la classe ouvrière et, en général.
Vous avez entendu hein, ce garçon de café qui dit « Moi, je ne suis pas un intellectuel, mais j'ai envie de réussir. Il y a pas de raison. En » fait. Et cet homme-là qu'on entend, sa voix est extraite d'un document que je recommande à tous nos auditeurs, d'un document qui s'intitule « Grand soir et petit matin » réalisé par William Klein, un document uniquement de films, hein, des montages de films de l'époque, où là, la parole est omniprésente. Est-ce que, selon vous, c'est un des échecs de mai 68, cette impossibilité, en tout cas à Paris, de dialoguer avec les ouvriers.
C'est certainement un échec au sens où la fusion ne s'est pas opérée, mais il me semble. Alors, Ça dépend ce qu'on entend encore une fois par mai 68. Si on la lit à l'aune de la succession des révolutions, on peut se dire qu'elle aurait pu être l'étincelle qui aurait débouché sur une révolution sociale. On voit pas ce que cette révolution sociale serait vraiment devenue dans une Europe qui était tellement quadrillée à la fois par le bloc soviétique et de l'autre côté par les économies de l'Europe occidentale, par l'Allemagne fédérale, par l'Italie, etc. Donc le socialisme en un seul pays français, on voit pas très bien ce qu'il aurait été. Donc à cette mesure-là, ceux qui auraient espéré cela en sont sortis déçus. Et cette déception était liée au fait que les moments de communion intellectuelle ont été intenses entre le mouvement étudiants et un certain nombre d'acteurs de la société civile, ouvriers et autres. Ou peintres, ou à l'école des beaux-arts, ou musiciens, on l'a vu, etc. Donc je ne crois pas, enfin, si on essaye d'écrire l'histoire de mai 68 comme celle d'une révolution manquée, alors on peut aller dans le sens que vous venez d'évoquer. Si on l'accepte plus comme un moment de refus d'un nouvel ordre social et intellectuel, qui s'impose de façon indiscriminée à tous les acteurs sociaux, alors on peut se dire que l'échec politique lui-même a permis quand même, ensuite, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, une gauche qui n'a certainement pas tenu grand-chose de ses engagements, mais qui a quand même, depuis après le programme de la résistance, contribué à ouvrir vers la démocratie sociale et vers une certaine égalité culturelle.
Vincent Delcroix,
je pense qu'il y avait quand même autre chose que dans cette, je sais pas si c'est un échec, mais en tout cas dans cette ce ratage de convergence entre les grèves ouvrières ou le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant, il y avait d'autres obstacles que celui des appareils politiques. Il y avait des obstacles théoriques et il y avait aussi des obstacles sociologiques. Les obstacles théoriques, c'est que vous pouvez pas à la fois fonder vos idées sur, pour le dire assez grossièrement, une théorie de la lutte des classes, et prétendre faire converger des classes qui sont antagoniques. Parce que il est bien clair que la plupart des étudiants, comme le souligne Sartre d'ailleurs, sont des fils de bourgeois. C'est pas du tout le même milieu que les milieux ouvriers. Et qu'il y a un obstacle là, à la fois théorique et sociologique. Je suis frappé parce que je me souviens d'un texte qui a été republié dans le Nouvel Obs il y a pas très longtemps, une lettre de Pasolini incendiaire contre le mouvement de mai 68, incendiaire contre les étudiants. Et les journalistes, je sais plus qui mettait en scène, était très embarrassé parce que comment Pasolini, le grand révolutionnaire, je sais pas s'il était stalino-chrétien, mais en tout cas le grand catholique révolutionnaire, comment pouvait-il s'en prendre à mai 68, il était passé à côté, il avait rien compris de ce qui se faisait. Moi, je pense qu'il avait compris beaucoup de choses et qu'il n'était pas simplement lié à un appareil de parti qui était, comme Althusser d'ailleurs, à ce moment-là, un peu dépassé parce que ce qui se passait, mais parce que, comme il le dit clairement, à ce moment-là, les pauvres, c'était les flics. Qu'il fallait pas nier non plus le fait que la révolution ou la révolte étudiante et studentine, c'était une révolte de petits bourgeois et qui a débouché sur un ultralibéralisme qui pouvait paraître aux yeux de Pasolini le débouché naturel de ses revendications de liberté d'expression, de liberté de mœurs, etc., etc. Donc il faut quand même, il y avait vraiment des obstacles, il y avait des intérêts vraiment divergents et des fondements vraiment divergents.
Alors Alain Schnapp, revenons à votre démarche, il est temps de le faire dans cette émission, de cette rédaction du journal de la commune étudiante. Il n'a pas suffi d'amasser les documents venant non seulement d'ailleurs de la Sorbonne, de Paris, mais aussi d'autres universités de France. Il a fallu ensuite les classer.
Voilà, c'était la partie la plus difficile et la plus intéressante du travail. Elle a été structurée par Vidal Naquet, lequel, étant formé à l'épigraphie, à la paléographie ancienne, avait une approche du document qui était extrêmement fine. Et ça a été, d'ailleurs on voit le retard technologique, ça a été une de nos tristesses de ne pas pouvoir livrer les documents sous une forme photographique. Aujourd'hui, ce serait fabriquer un livre comme ça à partir des tracts, ça serait très facile avec nos moyens de reproduction électronique. À l'époque, on pouvait pas se le permettre et on a adopté la personne qui a préparé les documents, elle a adopté une transcription pour donner une idée des caractères et des polices. Mais c'était très insuffisant. suffisant.
Parce qu'on retrouve un peu les différentes polices, de différents documents, de tracts, etc. Mais ce qui frappe, c'est la diversité des documents. Il y a des documents de fond, des grands débats théoriques.
La base, ce sont des tracts. Mais
tracts.
Derrière les tracts, il y a les archives internes. Donc, par exemple, les comptes rendus du conseil de l'université, de la faculté des lettres de Paris ou de Besançon ou de Nanterre. Et d'autre part, il y a des documents individuels, comme la lettre signée par Hélène Parmelin et Vernant à la direction du parti, qui explique au parti pourquoi les élections seront perdues et pourquoi son attitude, le Parti communiste, a une attitude en quelque sorte de rétraction qui est dommageable.
Avec la CGT, oui.
Et puis il y a des documents, un des plus extraordinaires, il nous a été donné d'ailleurs par un des cousins de Vernant, le docteur Jacques Vernant, qui est un spécialiste des maladies du cœur et qui travaillait dans le plus brillant laboratoire, enfin la plus brillante équipe hospitalière, celle du professeur Soulier, et dans laquelle on voit, il y a trois documents qui ont enregistré le processus de mise en accusation par ses assistants et collègues de Soulier et la démission de Soulier, qui ne sera pas suivie des faits ensuite. Mais là, on voit la révélation du processus social de contrôle à l'intérieur de l'institution d'une façon quasi chimique. Donc ça, c'est un des intérêts des documents que nous avons eu la chance de pouvoir récupérer et qui ont été classés d'un double point de vue. Vidal Naquet était à la fois quelqu'un formé chez Maroux dans une espèce de vision.
Irénée Maroux.
Henri-Irénée Maroux, le grand historien de Rome et le grand historien des religions et l'homme d'esprit en même temps, etc. Donc ça, c'était une approche, je dirais, d'une histoire bien enracinée dans ses sources. Et en même temps, Vidal Naquet, au contact de Vernant, dans ses lectures de Lévi-Strauss, utilisait l'approche structurale pour l'interprétation des mythes et pour l'interprétation des textes. Et je pense que ce qui donne encore son efficacité au recueil, c'est cette double approche, à la fois diachronique et synchronique.
Avec toujours cette remise en... C'est le lien qui unit ces textes, c'est la remise en cause à tous les niveaux des institutions, de l'université, du monde ouvrier, etc. Oui. etc.
Et là, peut-être est-ce un travers de ce gros livre, c'est que Vidal Naquet, moi-même à la marge, nous avons centré un peu notre réflexion sur la réforme universitaire. Parce que c'est cette absence de réforme universitaire qui, à mon avis, a été le principe incendiaire. C'est-à-dire que là, dans cette vieille Sorbonne, on était des centaines dans des amphis, avec des profs très souvent compétents, parce qu'il n'y a pas à critiquer, enfin, le contenu des cours, on peut peut-être discuter de son orientation, mais le travail de réflexion érudite qui était derrière, ou de synthèse, des grands cours d'histoire à la Sorbonne, quand je les relis aujourd'hui, ne semble pas devoir être l'objet des critiques qui étaient les nôtres. Les critiques qui étaient les nôtres étaient, il n'y a que quelques, entre le prof et nous, il n'y a que le maître assistant avec un cours TD de 2 heures.
Pas de dialogue entre le professeur et l'étudiant.
Aucun dialogue possible avec le professeur et un peu de dialogue avec les maîtres de conf, enfin ce qu'on appelle les maîtres de conf aujourd'hui, on les appelait les assistants ou les maîtres assistants à cette époque-là, dont certains, les assistants, étaient ensuite en situation précaire et pouvaient être licenciés s'ils déplaisaient au patron ou s'ils déplaisaient à certains des collègues. On a connu les... Donc on avait une université extrêmement archaïque qui n'avait pas su faire face à la mutation de l'augmentation démographique. En Allemagne, le système humboldtien, avec ses difficultés, a réussi à le faire. Parce qu'en Allemagne, la division du travail social est encore aujourd'hui évidente. C'est-à-dire que les fils d'ouvriers ne vont pas à l'université. Donc il n'y a pas énormément de problèmes de sélection à l'entrée de l'université, puisque la relégation sociale fait qu'il y a peu de poids. En France, alors, c'était structural.
Et il y a dans votre livre des documents extraordinaires qui touchent plutôt la forme, quoique, c'est-à-dire qu'il y a des conseils de nutrition pour les manifestants qui doivent tenir le coup et se nourrir correctement. Et il y a aussi des conseils pratiques, par exemple, comment éviter les matraquages. Ce sont des documents comment se disperser, comment organiser une manifestation, comment éviter les gaz, les effets du gaz, par exemple en achetant des lunettes de plongée sous-marine.
Si vous relisez les documents qu'on s'est rassemblés maintenant sur l'autre partie, c'est-à-dire la répression, les CRS et la police, on voit combien eux-mêmes étaient mal préparés, oui. avaient des lunettes qui ne oui. les protégeaient pas, avaient des casques qui les embourbaient, etc. Et bien, dans le mouvement étudiant, je me souviens de Cohn-Bendit le 10 mai disant « chacun est son propre service d'ordre ». Ça voulait tout dire et rien dire, mais ça voulait dire quelque part qu'il fallait savoir ce qui allait arriver, que quand on prend des jets de lacrymogènes, bah, il faut pouvoir avoir un peu de citron pour lutter contre. Et donc tout ça, c'est lié à l'installation du mouvement dans un certain temps plus long, et au fait que, ça restera mon souvenir du 10 mai, mais même avant, des gens, enfin le Quartier Latin, pourtant relativement bourgeois, était acquis à la cause étudiante. Donc les gens nous voyaient matraquer, voyaient certains camarades en assez mauvais état, ils descendaient, ils épongeaient le sang, ils leur donnaient à boire, ils leur donnaient à manger. Et donc des associations de consommateurs ou d'autres venaient à la Sorbonne pour dire « Attention, vous mangez mal, que des sandwichs, ça ne va pas, il faut diversifier votre diète. Il faut vous... » Et donc ce qui me frappe avec la distance, c'est que alors, peut-être avons-nous auto-censuré sans nous en rendre compte, parce que certains documents ne nous étaient pas accessibles, mais il n'y a rien qui marque une détermination à la violence, qui soit offensif. C'est du défensif. Protégez-vous des émanations, protégez-vous même des charges d'une certaine manière, mais on n'appelle pas, j'ai vu personne appeler à casser du flic, au sens où on l'entend souvent, et où la violence, parce que si vous lisez le journal de la commune étudiante, il faut le corriger par d'autres livres qui sont plus synthétiques, comme celui de Mme Bantigny et d'autres, c'est-à-dire qui prennent toute la question sociale. Là, le prisme étudiant-enseignant déforme un peu. Mais ce prisme révèle l'absence de capacité de renouveau de l'université française, et le drame, c'est qu'il va la perpétuer. C'est-à-dire que la réforme Faure, dans sa générosité, entre Edgar guillemets, Faure, après, elle va donner la congestion aux étudiants. Et 50 ans après, on s'aperçoit que ça, c'est un total échec, et que l'université française, elle souffre encore aujourd'hui à peu près des mêmes symptômes qui étaient les siens en 1968.
Vincent Delcroix, vous avez pensé à mai 68 en rédigeant ce livre, Nom de l'esprit de révolte. Vous parlez à un moment dans un chapitre de l'ironie.
Oui.
Et de la révolte.
Oui, bah, qui était un ingrédient de... Enfin, l'ironie et la dérision, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais qui était un ingrédient essentiel de mai 68, sans aucun doute. Je suis frappé par le fait qu'il y a vraiment une chose qui est convergente ici, c'est la contestation de l'autorité. C'est-à-dire vraiment ce qu'Anna Arendt appelait la crise de l'autorité des sociétés modernes, et qui a cristallisé sur de multiples champs et sur de multiples objets. Mais à chaque fois, bon, pas simplement le rapport entre enseignants et étudiants, mais qui était, alors là, évidemment, j'allais dire paradigmatique, puisque s'il y a bien un lieu où l'autorité... à part l'autorité parentale peut-être, où l'autorité apparaît dans toute sa netteté, c'est là. L'ironie, par exemple, la dérision, c'est typiquement des modes linguistiques, ou plastiques d'ailleurs, des modes linguistiques de contestation de l'autorité, c'est-à-dire de l'affirmation. Hein. Et c'est ça qui m'a intéressé. Au-delà même des révoltes ou des révolutions ou des insurrections ou même de la détermination entre ces trois termes, mais c'est le type d'instruments linguistiques qui servent à contester l'affirmation. Voilà.
Merci Vincent Delcroix. Il faut lire votre livre « Nom de l'esprit de révolte » en ces temps de commémoration. Donc, votre livre est publié chez Autrement. Merci Alain Schnapp. Sans nul doute, le journal de la commune étudiante que vous avez écrit avec Pierre Vidal-Naquet demeure un document important pour comprendre la révolte de 1968. Il est publié au Seuil dans la collection L'Univers historique. Idée réalisée par Vanessa Rovensky, bien sûr. Je vous retrouve moi samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.